Alors Juges, chapitre 3, versets 7 à 31. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël, et il les vendit à Cushan Rishtaïm, le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils furent soumis pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéatim, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Cushan Rishéatim. Le pays fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna de la force à Eglon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mirent en marche. Il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Eglon, le roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Ehud, fils de Guéra, un benjaminite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Eglon, le roi de Moab. Ehud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm, et la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Eglon, roi de Moab. Or Eglon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Ehud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même sur ses pas depuis les statues qui se trouvèrent près de Gilgal, et il dit « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Le roi réclama du calme, et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Ehud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été et dit « J'ai un message de Dieu pour toi. » Eglon se leva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Eglon, puis il sortit par derrière. Ehud sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder. Les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent « Le roi fait sans doute des besoins dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils prenaient ainsi du retard, Ehud s'était enfui, avait dépassé les statues et se sauvait à Séhira. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. » Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des guets du Jourdain, qui se trouve en face de Moab, et n'y laissèrent passer personne. Ils bâtirent à cette occasion environ 10 000 Moabites, tous robustes, tous vaillants. Il n'y eut aucun rescapé. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël, et le pays fut en paix pendant 80 ans. Après Ehud, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Ensuite, le second passage en Néhémie, chapitre 9, versets 23 à 28. Tu leur as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel, et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils prendraient possession. Leurs fils y sont entrés et en ont pris possession. Tu as humilié ses habitants, les Cananéens, devant eux, et tu les as livrés entre leurs mains avec leur roi et les peuples du pays pour qu'ils les traitent selon leur bon plaisir. Ils se sont emparés de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers déjà nombreux. Ils ont mangé à satiété au point même de grossir, et ils ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi. Ils ont délibérément ignoré ta loi. Ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les ont opprimés. Cependant, une fois dans la détresse, ils criaient vers toi, et toi tu les écoutais du haut du ciel, conformément à ta grande compassion. Tu leur accordais des libérateurs qui les sauvaient de leurs adversaires. Mais une fois le repos retrouvé, ils recommençaient à faire ce qui est mal devant toi. Alors tu les abandonnais à l'oppression de leurs ennemis, qui exerçaient leur domination sur eux. De nouveau, ils faisaient appel à toi, et toi, tu les écoutais du haut du ciel, conformément à ta compassion. Tu les as délivrés de nombreuses fois. Et le troisième texte, en Hébreux 11, du verset 29 à 34. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. C'est par la foi qu'ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères.
Pour certaines personnes, les lunettes sont des instruments totalement indispensables. Si vous leur enlevez leurs lunettes, ils sont dans une grande détresse. N'arrivent plus à voir, à faire des activités, enfin, etc. Ils ne voient quasiment rien. Eh bien, lorsque nous lisons la Bible sans l'aide du Saint-Esprit, c'est pire. C'est comme si nous étions aveugles. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, donc le Saint-Esprit, c'est pas des lunettes, évidemment, c'est une illustration, mais nous comptons sur son œuvre afin que nous puissions saisir sa parole ce matin. Et la lecture de Néhémie, chapitre 9, les versets 23-28, nous a permis de nous remettre dans le contexte du livre des juges. Le peuple était arrivé dans le pays promis, et donc s'était détourné de Dieu, avait crié à Dieu, Dieu avait répondu par des libérateurs, il se redétournait, enfin, etc. C'est le contexte du livre des juges. Et selon la première introduction du livre des juges que nous avons vu, tout le message de Dieu dans le Pentateuch également, qui rejoint l'introduction du livre de Juges, c'est ceci. Le peuple de Dieu doit vivre dans la sainteté et éliminer toute idolâtrie avec tout ce qui peut y conduire. Voilà, en fait, l'objectif. Le peuple de Dieu doit vivre dans la sainteté et éliminer toute idolâtrie avec tout ce qui peut y conduire. Nous avons aussi vu, dans la première introduction, que du côté de Dieu, nous voyons une tension. Une tension entre sa miséricorde qui le pousse à pardonner, et à forces égales, puisque c'est la perfection dans les deux cas, sa justice qui pousse à punir le pécheur. Donc dans sa justice, Dieu va punir le pécheur, et dans sa miséricorde, il va pardonner au pécheur. Une tension qui ne sera pas résolu dans le livre des juges, mais qui pointe vers la croix, où Dieu exerce sa justice et sa miséricorde à forces égales, c'est-à-dire dans sa totalité. Mais rappelons-nous que dans le livre des juges, cette tension est présente. Dans la deuxième introduction, on avait vu que le livre des juges est formé de plusieurs cycles, des cycles qui, mis ensemble, en fait, forment une spirale qui va vers le bas. À chaque cycle, on a l'impression que le peuple remonte un peu pour, à la fin du cycle, redescendre plus bas. Heureusement que, en Jésus-Christ, nous pouvons vivre l'inverse. C'est vrai que lorsque l'on est transformé par Dieu et que l'on vit avec Jésus-Christ, on voit de plus en plus notre péché, qu'on a l'impression que l'on descend. Mais au fur et à mesure que Dieu nous les révèle, c'est pour en être délivré et grandir dans la sainteté. Ainsi, en réalité, c'est l'inverse de la spirale des juges que nous pouvons vivre en Jésus-Christ. Voilà, tout cela, nous l'avons déjà vu ensemble. Nous avions vu aussi 5 R qui nous permettaient de nous rappeler différents cycles dans le livre des juges. Peut-être vous vous souvenez de ces 5 étapes. Alors, on va se les rappeler. La première, c'est la rébellion. Alors, c'est la première et la dernière dans le cycle, toujours dans le livre des juges. La rébellion. Ensuite, la ruine. La repentance. La rédemption. Et le repos. Et la rébellion, etc. Donc, dans le livre des juges. Et ces termes expriment des réalités ou des actions dans leur plein accomplissement dans le salut en Jésus-Christ, surtout les 3 derniers, repentance, rédemption, repos. Et c'est bien d'avoir cette perspective, c'est pour ça que je voulais enseigner d'ailleurs. Mais dans le livre des juges, nous ne trouvons pas encore l'accomplissement du salut, vers lequel en fait nos yeux tendent en lisant ce livre. Il est en germe. C'est en fait l'ombre, c'est le contour de ce qui nous est présenté ensuite en Jésus-Christ. Je vais donc aujourd'hui utiliser d'autres mots pour ces étapes qui seront les différents points de cette prédication en lien avec les juges que l'on a pu découvrir. Et la prédication s'intitule « Des libérateurs pour le peuple de Dieu ». Parce qu'après avoir fait un survol du cycle, comme l'auteur nous le fait faire dans le chapitre 2, eh bien, nous allons nous plonger dans la réalité de ces cycles, avec des personnes, avec des situations réelles, des récits historiques qui manifestent pratiquement ce qui était présenté. Donc, les 5 éléments que nous allons voir. Le premier, pour la rébellion, nous parlerons en fait d'un peuple qui se révolte. Pour la ruine, nous parlerons d'un Dieu qui juge et corrige. Pour la repentance, nous parlerons d'un peuple qui appelle au secours. Pour la rédemption, nous parlerons d'un Dieu qui secourt. Et pour le repos, nous parlerons d'un Dieu qui accorde la tranquillité. Nous allons bien sûr particulièrement parler d'Othniel, le premier juge, en quelque sorte le portrait robot de tout ce que les juges devraient vivre. Celui qui est devenu le gendre de Caleb, on l'avait vu dans le premier chapitre, il est devenu le gendre de Caleb par sa foi et son courage. Alors, les jeunes filles qui sont ici dans la salle, si vous cherchez un mari, 2 éléments devraient faire partie de votre futur conjoint que vous cherchez. C'est la foi et le courage. Ça, c'est des éléments clés que Aksa a pu vivre en se mariant avec Othniel. Othniel qui est décrit en laissant une grande place à Dieu d'ailleurs. Tout le cycle d'Othniel, on n'en parle pas beaucoup en fait d'Othniel, on parle beaucoup de Dieu. Il était intéressant de se rendre compte que le nom Othniel signifie en fait lion de Dieu ou puissance de Dieu. Le deuxième juge, Ehud, mettra un petit peu plus d'accent sur le libérateur lui-même que l'Éternel a envoyé. Mais bon, ne brûlons pas les étapes, on va commencer par le début. Donc, ayez votre Bible ouverte dans Juges 3, ça vous aidera, puisqu'on y reviendra fréquemment. Au chapitre 3, au verset 7, voici ce qu'il est écrit. « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et rendirent un culte aux Baal et aux Asherah. » Avec ce texte, nous entrons dans notre premier point. Le peuple qui se révolte. Et dans le texte du jour, nous trouvons encore ces paroles au verset 12a. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est un refrain que nous voyons malheureusement souvent dans le livre des juges. C'est la pente glissante qui fait que la spirale va très bas. Faire le mal aux yeux de l'Éternel. Et les chapitres 17 à 21 seront comme une fenêtre ouverte sur le mal que faisait ce peuple. Nous le verrons ensemble. Et tout ce mal résulte d'une chose, c'est l'apostasie. C'est quoi en fait l'apostasie? L'apostasie, c'est la révolte contre Dieu. C'est l'abandon de la foi en Dieu. C'est l'action de s'éloigner, c'est déserter de Dieu. Si vous voulez, ça c'est ça l'apostasie. L'apostasie, c'est la révolte contre Dieu. C'est l'abandon de la foi en Dieu. C'est l'action de s'éloigner, c'est déserter de Dieu. Et un peuple qui se révolte est un peuple apostat. Et voilà comment cela arrive en fait. Premièrement, le peuple oublie l'Éternel. Et deuxièmement, le peuple rend un culte à d'autres dieux. Comme, prenons l'histoire de Tom et de son papa. En fait, le papa de Tom lui a donné une carte pour le chemin à suivre qui l'amènera dans leur lieu de vacances. Et son papa part avant lui pour aller préparer toute chose pour que tout se passe bien. Tom s'en va sur le chemin et il se réjouit de retrouver son père dans ses lieux de vacances. Mais chemin faisant, il commence à oublier le but de son parcours. Il commence à regarder autour de lui les magasins, les salles de jeux, les plages, toutes sortes de les vitrines où on parle de lieux de vacances paradisiaques. Et il commence à s'intéresser à cela et commence à travailler pour avoir de l'argent pour aller dans ces lieux paradisiaques. Et il cherche à partir dans ces lieux-là. Alors qu'en fait, son père lui avait prévu des stations relais où il trouverait tout ce dont il avait besoin avant d'arriver à son lieu de vacances avec lui. Mais Tom a travaillé, il part dans son lieu paradisiaque. Mais tout coûte tellement cher. Alors, comme il veut un peu tout vivre et qu'il n'a pas assez d'argent, il se met en dette. Il revient à la maison, il doit travailler pour payer ses dettes, et il veut travailler encore pour avoir de nouvelles vacances dans un lieu paradisiaque. En fait, il a complètement oublié son chemin vers son père. Complètement. Oublier, comme on l'a déjà vu, c'est pas être ignorant, mais c'est volontairement mettre de côté. C'est ça oublier, ici dans ce texte. Oublier l'Éternel, c'est oublier sa sainteté. Oublier l'Éternel, c'est oublier sa bonté. C'est oublier sa justice. C'est oublier sa miséricorde. C'est oublier sa vérité. C'est oublier son amour. C'est oublier sa gloire. Vous pouvez continuer. Peut-être qu'à me rappeler ces quelques éléments que j'aimerais après développer. C'est oublier sa sainteté. Oublier sa bonté. Oublier sa justice, oublier sa miséricorde, oublier sa vérité, oublier son amour, oublier sa gloire. Et lorsque quelqu'un oublie la sainteté de Dieu, eh bien, il n'est plus autant honteux face à son péché. Et même il l'excuse. Parce que quand on oublie la sainteté de Dieu, nos péchés deviennent quelque chose de banal, ou même peut-être normal. Lorsque quelqu'un oublie sa bonté, eh bien, il cherchera par ses propres forces et par tous les moyens à rendre sa vie agréable en ne comptant que sur lui-même. Puisqu'en fait, Dieu, est-ce qu'il est bon? Si j'oublie la bonté de Dieu, quelque part, je vais compter sur moi-même pour vivre bien. Lorsque nous oublions la justice de Dieu, eh bien, on ne se sentira plus coupable. Et on ne cherchera pas à réparer les torts si on oublie la justice de Dieu. Ou si on oublie la miséricorde de Dieu, ben on n'ira plus lui demander grâce. On n'aura plus confiance que lorsqu'on demande pardon, il nous pardonne, si on oublie sa miséricorde. Ou encore, si quelqu'un oublie la vérité de Dieu, eh bien, il n'a plus de repère clair. Il n'y a plus de repère s'il n'y a plus la vérité de Dieu. Parce qu'en fait, notre propre vérité sans Dieu, elle change au gré des circonstances et des époques. Et en fait, on ne pourra en fin de compte plus être en communion avec les autres, puisque les autres ont aussi une vérité qui change, qui n'est plus la même. On peut avoir une communion lorsque nous avons une vérité basée sur un même socle, une vérité inébranlable, une vérité commune. Mais continuons dans cette notion d'oubli. Si quelqu'un oublie l'amour de Dieu, eh bien, il est perdu dans une recherche frénétique de sens à sa vie. Parce qu'il a un grand besoin à combler. Lorsque quelqu'un oublie la gloire de Dieu, il cherche sa propre gloire. Et tout ce qui se passe, qui ternit sa propre gloire, va l'enfoncer dans l'amertume et parfois même la dépression. L'homme est créé adorateur. Et s'il oublie Dieu, il le remplacera par autre chose. C'est certain. C'est ce qu'on appelle les idoles. Sa manière de vivre. Sa manière d'aimer, sa manière de parler, le but de sa vie, l'énergie qu'il investit sera dirigé par une ou des dizaines d'idoles pour celui qui se détourne de Dieu. En fait, se détourner de Dieu, c'est ça l'apostasie, mes amis. Et Paul avertit Timothée et il dit, dans 1 Timothée 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » En fait, ici, Paul donne l'exemple de deux idoles particulières. L'idole immoralité, hein, on ne veut plus de mariage, etc. Celle de l'égoïsme, d'ailleurs, hein, c'est l'égoïsme qui est là derrière. Et l'exemple du légalisme alimentaire. Ça, faut manger, ça, faut pas manger, etc. C'est des idoles qui sont là derrière. Abandonner la foi, c'est l'apostasie. Mais cela montre une foi superficielle, non réelle, comme celle du peuple du temps des juges, qui en fait se rangeaient du côté de Dieu pour être tranquilles. En fait, ils n'allaient pas du côté de Dieu parce qu'ils aimaient Dieu, par consécration, par obéissance, par recherche de sa gloire, parce que leur cœur était transformé. Non, ils allaient vers Dieu parce que comme ça, ils pouvaient être tranquilles. C'est de ce genre de foi-là que je parle. Dans Hébreux 3, versets 12 et suivants, il y a un avertissement pour ceux qui se considèrent ou que l'on considère comme frères. De ne pas jouer un double jeu, d'avoir, peut-être de façon visible, un cœur pour Dieu, mais en réalité, d'avoir un cœur mauvais et incrédule, non transformé, qui conduira immanquablement à se détourner de Dieu, à l'apostasie en fait. L'auteur des Hébreux continue en disant, et c'est un texte extrêmement fort, il le dira plusieurs fois, « N'endurcissez pas votre cœur par la séduction du péché. » N'endurcissez pas votre cœur. Que celui qui n'a pas sa vie transformée ici et qui fait semblant d'être un chrétien, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, n'endurcissez pas, mais tournez-vous vers Dieu par la repentance et la foi. Pas seulement en criant à Dieu pour un secours passager. Aide-moi, tout ira bien. Non! Mais pour qu'il vous sorte de votre péché, qu'il vous transforme, que vous entriez dans cette foi que rien ni personne ne pourra vous enlever. Jésus-Christ a pris la peine du jugement de tous ceux qui se repentent et qui croient en lui. Il l'a dit, il le fait. Dans les juges, c'est très intéressant de voir que si son peuple se détourne de lui, Dieu ne le laissera jamais tomber. Dans ce peuple qui est entré dans le pays de Canaan du temps des juges, il y a des personnes fidèles et des personnes qui sont membres du peuple de nom. Dieu ne les laisse pas tomber. Il réagit et il livre son peuple apostat à l'oppression. Vous voulez servir d'autres dieux? Alors allez-y. Servez-les avec les conséquences, afin que vous compreniez que vous faites fausse route. Voilà l'œuvre de Dieu. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Dieu discipline son peuple. Un Dieu qui juge et corrige. Dieu agit activement pour le bien de son peuple. Il le livre à l'oppression. Je vais dire, attendez, t'es sûr que tu sais ce que t'es en train de dire là? Livrer le peuple à l'oppression, c'est chercher son bien? Vraiment? Ben, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi le bien du peuple? Quel est le bien du peuple? Eh bien, le bien du peuple, c'est servir l'Éternel, vivre dans la sainteté et dans les bienfaits procurés par le respect de la loi, confiant et rassuré dans l'amour du Tout-Puissant, respecté, etc. C'est exactement l'inverse de tout ce qu'on a vu avant si on oubliait les différents éléments de Dieu, sa sainteté, sa bonté, sa justice, etc. C'est ça le bien du peuple. Et s'en détourner ne peut qu'amener le mal pour le peuple. Vous savez, la correction de Dieu et la protection de son peuple. La correction de Dieu est la protection de son peuple. Et le jugement temporel de Dieu est toujours un appel à retourner à lui. le jugement temporel de Dieu est toujours un appel à retourner à lui avant le jugement final. Alors vous vous souvenez sûrement de cette histoire hein, que Jésus a vécue avec ses disciples en Luc 13, où il leur demande si les 18 personnes sur qui la tour de Siloé était tombée, et ils étaient morts, est-ce qu'ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem ? Alors, implicitement, Jésus dit qu'ils étaient coupables. Il ne dit pas qu'ils n'étaient pas coupables. Et que cet accident était un jugement sur eux. Mais Jésus va répondre lui-même, ensuite, à la question qu'il a posée à ses disciples, en disant que ces personnes n'étaient pas plus coupables que les autres. Cela signifiait, en fait, que tous méritaient de recevoir ce jugement. Et il ajoute, et ça c'est une parole qu'on veut prendre avec nous et transmettre, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Jésus ne voulait pas dire que tous ceux qui ne se repentent pas, il y a une tour qui leur tombe dessus, hein, évidemment. C'est la notion du jugement qui était là. Tous ceux qui ne se repentent pas, oui, le jugement est sur eux, c'est vrai. Alors comprenons donc bien que lorsque nous voyons Dieu juger d'autres personnes, tous sont appelés à se tourner vers lui, chrétiens ou non. Lorsqu'il y a un jugement qui arrive, tous nous sommes appelés à nous tourner vers lui. Et les catastrophes naturelles sont souvent un signe très clair d'un jugement de Dieu. Ne jugeons pas les personnes qui sont jugées. Repentons-nous et tournons-nous vers Dieu, parce que nous le mériterions tout aussi bien. Et pour les chrétiens, pour ceux qui sont en Christ, ceux qui n'ont pas plus besoin d'avoir peur d'un jugement, puisque Jésus-Christ a déjà pris ce jugement, eh bien, souvenons-nous que nous sommes corrigés par Dieu. Et lorsque Dieu nous corrige, ça ne signifie pas qu'il nous laisse tomber. Lorsque Dieu corrige, ça ne signifie pas qu'il nous laisse tomber. Au contraire, il agit pour que nous retournions à lui et que nous nous détournions du péché. Dieu aime celui qu'il corrige. Sinon, il le laisserait tomber. Il ne s'en occuperait plus. Si un père aime son enfant, il va le corriger. Afin, par exemple, qu'il ne touche plus à la drogue. Si un père découvre qu'un de ses enfants prend de la drogue, il ne va pas juste dire... ou bien comme Élie. Vous vous souvenez, Élie, celui qui a pris soin de Samuel. Hein, ses fils faisaient toutes sortes de mauvaises choses. Puis il leur disait juste, « Mais ce n'est pas bien ce que vous faites. » Sans les corriger. Et le jugement de Dieu est tombé, ils sont morts. Non, celui qui aime, il va chercher à corriger, il va agir. Comme Dieu le fait pour ses enfants. Et les corrections de Dieu à notre égard peuvent se décliner en toutes sortes de choses. Vous savez, parfois, la perte d'argent que l'on peut subir fait partie d'une correction de Dieu, pour nous apprendre à ne plus nous confier dans cet argent, mais de nous confier en Dieu. Ou bien, pour un autre, la maladie peut l'arrêter. Ça peut être dans son entêtement à vouloir tout contrôler. Et lorsqu'on est malade, on ne peut plus. Parce qu'il dit, attendez, c'est moi qui contrôle. Ou pour un autre, des douleurs ou des oppressions qui le poussent à s'examiner pour extirper le péché dans sa vie. Ou un autre encore, des relations difficiles ou des oppositions qui le poussent à crier à Dieu, « Seigneur, j'arrive pas, j'ai besoin de toi. » Vous savez, ce n'est pas juste Dieu qui vient, puis tout à coup, de manière tout à fait mystique, qui vient vous dire « Je vais te corriger. » Non, ça fait pas. C'est dans la vie de tous les jours de ce que nous vivons et qu'il contrôle pour que nous puissions grandir dans une confiance, dans une sainteté, dans un amour renouvelé pour lui. Vous connaissez bien ce texte dans Romains 8. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Comme je le dis toujours, n'oubliez jamais les versets 29 et 30 qui sont le complément qui nous permettent de comprendre que le bien, ce n'est pas le bien-être. Le bien, c'est d'être rendu semblable à Christ. Tout ce qui nous arrive nous aide à être rendu semblable à Christ. La patience, l'amour, la paix, la maîtrise de soi, la miséricorde, la bonté, la justice, la sainteté et tant d'autres vertus sont développées par Dieu au travers des épreuves qu'il utilise pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous rendre toujours plus conformes à l'image du Christ. Ne nous révoltons pas face à l'épreuve. Par contre, on peut dire parfois à Dieu, c'est lourd, j'ai vraiment besoin de toi, je n'y arrive pas. Et c'est vrai que si on s'arrêtait là sur nos réflexions, ça serait vraiment lourd. Vous êtes d'accord, hein? Comment, par nos propres forces, supporter toutes ces corrections, travailler de toutes nos forces, résister au mal, enlever les idoles de notre vie par nos propres forces? Mais seuls, nous n'y arrivons pas. C'est pourquoi nous crions à Dieu. Aide-nous ! Aide-nous ! C'est notre troisième point, c'est ce que le peuple fait, le peuple qui appelle au secours. C'est vrai que je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de temps sur ce sujet, déjà que le temps passe et nous le reverrons par la suite dans les juges. Mais j'aimerais simplement m'arrêter quand même un petit instant sur ce qui est dit, sur ce que le peuple dit. Regardez au verset 9. Alors, les Israélites crièrent à l'Éternel. Ou le verset 15. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. C'est tout. Rien de plus. Ces mots, je dirais, c'est vrai, expriment peut-être plus une détresse qu'une repentance. Mais Dieu n'est jamais insensible aux cris de détresse. J'aimerais vous lire quelques psaumes qui nous le disent clairement. Psaume 18, 5 à 7. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient sur moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix, et mon cri lui parvient à ses oreilles. Ou le psaume 31, verset 10, où il est dit « Fais-moi grâce, Éternel, car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin. » Et un peu plus loin dans le même psaume, « Et moi je me disais, dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. » Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Et peut-être que vous avez le psaume 50, verset 15, tout près de votre lit. Peut-être. Peut-être que vous allez le mettre. Parce qu'il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Si le peuple d'Israël, dans le livre des juges, n'est pas un exemple dans sa manière d'appeler le Seigneur, ce que nous lisons dans ce livre nous pousse à invoquer Dieu dans notre détresse. Parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que le peuple fait, nous nous concentrons sur ce que Dieu fait. Dieu répond aux détresses. Ainsi, si ce peuple n'est pas un exemple dans sa manière d'appeler le Seigneur, ce que nous lisons dans ce livre nous pousse à invoquer Dieu dans notre détresse. Parce que malgré notre appel imparfait, est-ce que notre appel sera un jour parfait d'ailleurs ? Malgré notre appel imparfait, Dieu répond. Alors, il y a des parents parmi nous qui ont eu des bébés ou qui en ont encore, qui crient parfois et qui ne peuvent pas expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils comprennent parfois qu'il faut donner à manger, donner à manger. Ou bien qu'ils ont peur, qu'il faut les rassurer. Vous savez, Dieu connaît encore bien mieux ses créatures, bien mieux qu'un parent, ses enfants. Alors, parfois il comprend, parfois pas. C'est pas toujours facile, on essaie de chercher. Mais pas Dieu, lui il comprend. Donc au moment où l'on crie à lui dans notre détresse, il comprend. Même ce que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Il le comprend. N'hésitez donc pas à crier à lui. Le peuple dans Juge crie à lui et Dieu suscite un libérateur pour sauver son peuple. C'est le quatrième point. Un Dieu qui secourt. Dieu secourt son peuple par un libérateur. Alors, il ne fait pas une action mystérieuse en agissant avec une force invisible et des effets extraordinaires afin que tout le monde assis sur son siège de spectateur dise « Waouh !» et applaudissent. C'est pas comme ça que Dieu agit, non? Non. Dieu envoie un homme comme libérateur et le peuple est impliqué dans la libération. Othniel, le premier juge, est fantastique en fait. C'est le meilleur. C'est l'exemple de foi, de courage, d'obéissance, de modestie, d'engagement. Et un élément important qui, je le pense, est dit une fois pour tous les autres, c'est ce qui est écrit au verset 10. Regardez. Juge 3, verset 10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. C'est vrai que Dieu n'aurait pu dire cela qu'une seule fois, pour tout le livre des juges. Il le dit là, et on sait que l'Esprit de l'Éternel est sur les juges. Bon, il le dira en fait à 7 reprises dans le livre des juges.
Et comme le dit un cher frère et commentateur, ces références, et je vous le cite, sont comme un panneau de signalisation routière orientant les voyageurs au croisement. L'esprit est mentionné chaque fois que le lecteur pourrait s'égarer. Rencontré une fois dans la salle de théorie avec Othniel, le juge prototype, le panneau apparaît 6 fois sur le terrain, là où les difficultés sont réelles. Une fois pour Gédéon, une fois pour Jephté, et 4 fois pour Samson. Et si le lecteur n'a pas écouté les recommandations de départ, la sortie de route est garantie, en particulier sur un terrain aussi verglacé que celui de Samson, où peu d'interprètes terminent le parcours sans être meurtris à l'image de ce héros qu'ils finissent toujours par blâmer plus que nécessaire. La mention « L'Esprit de l'Éternel fut sur lui » est une indication importante et précieuse. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas répétée pour chaque juge, puisque Dieu l'a dit pour Othniel, au chapitre 3, verset 10, cela est le cas pour tous les juges qu'il a appelés à intervenir dans son peuple. Donc un élément important à retenir, l'Esprit de l'Éternel est sur le juge qu'il envoie. Alors ceci dit, cela ne signifie pas que le juge devient un pantin, une marionnette agitée par Dieu par quelques ficelles invisibles, non. Dieu utilise les capacités données au juge. Par exemple, le fait que Ehud n'utilise pas sa main droite, mais sa main gauche, eh bien, a été un point déterminant pour éliminer le tyran. Il utilise les capacités données au juge. Il permet des délivrances avec des outils de travail non prévus pour la guerre. Shamgar est victorieux avec un aiguillon de bœuf. C'est ce que c'est ? Moi non plus, je ne sais pas si c'était. Alors, je suis allé voir et je vous le dis, comme ça la petite curiosité sera passée. Qu'est-ce que c'est un aiguillon à bœuf ? En fait, c'est un long bâton avec d'un côté une pointe pour faire avancer le bœuf quand il n'avance pas. Hein, et de l'autre côté, il y a une petite lame pour gratter, nettoyer la charrue, le soc de la charrue. Voilà en fait l'aiguillon à bœuf. C'est un outil de travail. Et nous voyons que des délivrances peuvent être prévues avec des outils non prévus pour la guerre. Cela nous permet et nous montre que ce n'est pas l'équipement ou les capacités habituelles qui sont importantes, même si généralement Dieu utilise avec ce qui est habituel. Mais le plus important, le fondement de l'action du juge, c'est quoi ? La confiance en Dieu. Ça, c'est l'élément fondamental. On utilise les outils qu'on a, si on a les outils adéquats, on les prend. On ne va pas dire « je confie en Dieu, puis je n'utilise pas les outils ». Non, ce n'est pas du tout ça. Mais l'élément fondamental, crucial, c'est la confiance en Dieu. C'est vivre ce que Dieu dit à Gédéon. « Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Par contre, nous voyons que les juges que Dieu utilise dans sa grâce ne sont pas exempts de doute, comme Gédéon. Ne cherchent pas du prestige, comme les juges qui nous sont présentés avec 30 jusqu'à 70 enfants. Avoir autant d'enfants, on en reparlera quand on arrivera à Jephté, puisqu'on parle de ces petits juges à ce moment-là. Mais avoir autant d'enfants, c'est en fait chercher le prestige, chercher la gloire. Donc, ils ne sont pas exempts de ces penchants qui ne sont pas selon Dieu, ou encore la sensualité qui a perdu Samson. Le mouvement ne va pas vers le meilleur dans les juges, comme l'état de pécheur depuis Adam. J'aime à dire, pour ceux qui me connaissent un peu, que nous vivons en fait une désévolution et pas une évolution. Puisque l'évolution, c'est dans un sens positif. Nous vivons dans une désévolution, en fait, depuis la chute. Cela nous indique que malgré l'intervention de Dieu, qui est puissante, dès que l'homme pécheur est impliqué dans son plan de libération, la délivrance ne peut pas être totale. Le livre des juges, depuis le début à la fin, nous pousse à désirer un libérateur sans péché, un libérateur parfait. C'est ça que le livre des juges fait en fait. Il nous pousse, on dit mais c'est bien ces libérateurs, mais il en faut tout le temps, encore un, encore un, puis pas 7 jours, pire d'ailleurs. On en aimerait un qui délivre une fois, vraiment. Vous savez, si un prédicateur envoyé pour Dieu peut nous aider à nous tourner vers Dieu, il ne peut pas être notre libérateur. Je ne peux pas être votre libérateur. Comme les juges qui devaient diriger vers le libérateur. Les juges aussi devaient diriger vers le libérateur. C'était qui le libérateur du temps des juges ? C'était Dieu. Leur rôle était de diriger vers Dieu afin qu'ils se détournent de leurs idoles. Un dernier élément important à comprendre, c'est que même si les juges de l'Ancien Testament sont imparfaits, la colère de Dieu n'est pas dirigée vers le juge, mais vers le peuple qui se détourne de Dieu. Et en Juges 3:11, par exemple, regardez avec moi au verset 11, hein, le pays fut tranquille durant 40 ans, et qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin des 40 ans, c'est Othniel qui est mort. En fait, durant la durée de la vie du juge, ils étaient tranquilles. Cela montre bien que Dieu n'agissait pas contre le juge, mais contre le peuple. Et le juge, en fait, était là pour tourner les regards vers l'Éternel. Et même Ehud, le deuxième juge, en fait, il semble que la tranquillité a même duré plus longtemps que sa propre vie. C'est ce qui nous amène à notre dernier point. Dieu accorde la tranquillité. Et ça, c'est un refrain qu'on aime entendre dans ce livre des juges. Il y a des choses qu'on n'aime pas dans ce livre des juges. Hein. Souvent, il n'est pas facile. Mais il y a un refrain qu'on aime entendre. Hein. Enfin, j'espère. Enfin, moi, j'aime bien l'entendre. Le pays fut tranquille pendant 40 ans, verset 11, au verset 30. Et le pays fut tranquille pendant 80 ans. Le terme tranquille, utilisé au repos dans ce texte, c'est être en repos. Ne pas être dérangé. Être en paix, vivre dans le calme. C'est beau ça, non? Et en fait, quel bienfait que cette tranquillité. C'est exactement ce que Paul nous invite à demander à Dieu en priant pour nos autorités. C'est exactement ça en fait. Hein. Dans 1 Timothée 2, les versets 1 et 2, il est dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des prières, des requêtes, des intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. » C'est cette même tranquillité. Donc encore aujourd'hui, nous prions pour que nous ayons des responsables, des autorités qui nous permettent de vivre dans cette tranquillité, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée 2, 1 et 2. Lorsque le pays est dirigé par des personnes qui respectent les commandements de Dieu, tout le peuple vit dans la tranquillité, comme dans le livre des juges. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un trouble cette tranquillité, l'autorité mise en place va réagir et rétablir l'ordre afin que la société puisse vivre une vie tranquille. Prions, prions que la justice soit faite sur les bases chrétiennes qui ont construit notre pays. Et prions et agissons selon nos possibilités pour empêcher les lois qui sont contre la parole de Dieu. Lorsqu'il y a une votation, on peut voter en Suisse. Lorsqu'il y a une votation, il y a des lois qui sont clairement des lois contre Dieu. Nous avons une responsabilité parce que nous voulons la tranquillité de notre pays. La tranquillité de 40 ans du temps d'Othniel et ensuite de 80 ans avec Ehud nous encourage. Et c'est vrai que dans le livre des juges, on lit ça 40 ans, 80 ans, puis on se dit bon, alors la fois suivante, ça sera peut-être 120, 40 plus 80, ou 160, 2 fois 80. Mais le repos de l'ancienne alliance dépendait de l'obéissance au commandement de Dieu. Et malheureusement, le livre des juges, qui nous parle aussi de la profondeur du péché, nous montre que ce repos ne sera plus jamais de 80 ans, mais diminuera. Et même par la suite, si vous êtes un peu attentif au texte, il n'est plus question de tranquillité. Il est simplement dit, il fut juge pendant tant d'années. Si jamais sur les petits papiers derrière, vous pouvez voir, ça ressort très clairement. Du temps des juges, pour que la tranquillité et le repos durent, il fallait que le peuple ne se détourne pas de l'Éternel et que l'obéissance soit parfaite. Donc pour continuer tranquille, il fallait obéir parfaitement à Dieu. À nouveau, le juge fait languir après quelque chose qui dure, hein, après une obéissance parfaite. Vous voyez où je vais venir. Hein? Parce que l'obéissance parfaite, nous l'avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ a obéi parfaitement. Jésus-Christ a obéi et Dieu revêt celui qui l'adopte du manteau de justice et de sainteté. Il y a un endroit toujours tranquille, un repos toujours accessible pour celui qui est adopté par Dieu. Celui qui a ce manteau de comme si on avait tout obéi parce que Christ l'a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et c'est réel.
il nous donnera du repos. C'est Jésus qui parle. C'est vers lui qu'on trouve cette tranquillité, notre repos. Il est notre forteresse, notre divin berger, notre parfait libérateur. Et même quand tout va mal autour de nous, on peut être tranquille en lui. Il y a des témoignages de personnes qui vivent même des souffrances qu'on leur fait subir. Ils sont tranquilles. Non pas qu'ils ont pas mal, hein, mais ils ont une tranquillité, un repos en Dieu. Et cela annonce la tranquillité, donc cette tranquillité de l'âme que l'on peut déjà vivre maintenant, annonce la tranquillité éternelle dans laquelle nous entrerons bientôt par la grâce de Dieu. Qu'allons-nous retenir de ce matin? Qu'allez-vous retenir? Eh bien, chacun retient ce que l'Esprit lui a donné. On ne retient pas tous la même chose. Parce que Dieu nous touche dans notre vie, là où on est. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées. Mais je vous encourage à partager un élément qui vous a touché. Parce qu'en le faisant, vous allez beaucoup mieux vous en souvenir. Et vous allez pouvoir le vivre aussi. Le mettre en pratique. Pourquoi pas, par exemple, l'exprimer dans la prière tout à l'heure. De simplement remercier Dieu sur un élément qu'on a saisi, qu'on a découvert, ou qui nous a encouragé, ou qui nous remet en question. Et je termine en rappelant que le livre des juges manifeste le besoin d'un sauveur parfait. Je crois qu'on commence à le comprendre, je l'espère. D'un roi aimant et droit, nous le verrons encore par la suite, et nous indique la souveraineté de Dieu malgré la profondeur et l'horreur du péché. Dieu corrige ceux qu'il aime, il donne un libérateur à ceux qu'il invoque et accorde la tranquillité et le repos à ceux qui vont à lui. Prions. Père éternel, lorsque nous nous mettons à réfléchir sur ce que ce peuple a vécu au temps des juges, nous sommes comme eux. Combien de fois on se rend compte qu'on s'est de nouveau éloigné? Mais j'aimerais te dire merci, Père, parce que nous sommes dans une situation bien meilleure. Nous avons un Sauveur parfait qui a accompli la loi parfaitement. Il a obéi parfaitement, afin que nous puissions entrer dans ce repos et dans cette tranquillité. Seigneur, nous te remercions parce qu'en Jésus-Christ, nous n'avons plus à avoir peur du jugement. Il est déjà tombé sur lui. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Et nous te prions de nous aider à toujours venir à cette source qui nous assure la tranquillité. Invoque-moi au jour de la détresse. Et Seigneur, tu nous délivreras, tu nous donneras le repos. Tu nous l'as dit et tu le fais. Et tu le manifestes de manière glorieuse en Jésus-Christ. Tu nous donnes la paix dans notre âme. Quelle grâce, Seigneur. Personne d'autre au monde que ceux qui t'appartiennent peuvent vivre cela. Personne. Eh bien, Seigneur, que nous puissions chérir ce trésor, le désirer toujours plus, le rechercher en venant à toi, en vivant dans cette motivation de te servir et de te suivre et de suivre tes conseils, tes commandements par amour pour notre Sauveur Jésus-Christ qui l'a fait parfaitement pour que nous puissions vivre dans le repos. Ô Seigneur, permets qu'il n'y ait personne ici qui vive un double jeu, qui pourra un jour être appelé apostat s'il se détourne, s'il ne vient pas à toi. Ô Seigneur, que tu puisses permettre que ton esprit agisse dans les cœurs, puissamment, et que nous puissions nous réjouir de ton œuvre transformatrice et glorieuse. Merci Père pour ce repos que tu nous donnes en Jésus-Christ, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.